Au printemps, on espère que les entrées fleurissent. Malheureusement, on a aussi quelques feuilles qui sont tombées côté distribution. On en parle dans quelques instants dans le nouvel épisode de Penin Weekend. C'est parti.
Débriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler.
DiCaprio peut me dire merci.
C'est hyper beau le cinéma.
On a un fichier complet partout.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
Des gens âgés qui mettent des lunettes.
Ils arrivaient à faire une estimation
comme des observateurs du cinéma.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro 68 d'Opening Weekend. Opening Weekend ce soir, bien entouré puisque j'ai le plaisir d'être en compagnie de Charlotte Escolier. Salut Charlotte.
Salut Aurélien, bonjour à tous.
Mais également de Mafili Makalou. Salut Mafili.
Salut Aurélien.
De l'autre côté de la table, Tom Abrami. Salut Tom.
Salut Aurélien.
Julien Bernard, salut Julien.
Bonjour tout le monde.
Et au platine, mais qui va peut-être aussi intervenir, on ne sait pas, c'est toujours la surprise, Max Marjolais, salut Max.
Coucou.
Ça dépend des sujets, hein. Il intervient quand il veut.
Voilà, beaucoup de monde parce que, on va vous dire aussi ce qu'il en est, c'est qu'il y aura un autre podcast qui sera enregistré dans la foulée de celui-ci. Très probablement d'ailleurs, c'était mon film, le podcast drivé par Charlotte. Charlotte, on peut dire déjà qu'on en a posté un la semaine dernière qui était très sympa. Si vous ne l'avez pas écouté, allez-y. C'était sur les films qui ont fait moins de 100 000 entrées. Voilà, quelque chose pour donner envie d'écouter ce numéro.
Écoutez, il faut l'écouter parce que déjà c'était la première participation de Jérémy.
Voilà, qui n'est pas là ce soir.
Absolument, mais et c'était très très intéressant de l'avoir parmi nous et on dit des choses bien intéressantes sur trois films assez iconiques, donc à écouter.
Et on le rappelle, cette émission c'est toujours le moment idéal pour vous de découvrir un petit peu le background de chacun des membres du Débris Film. On espère que ça vous plaît, c'est des petites anecdotes aussi sur ces films qui ont jalonné nos vies, qui comptent, que parfois on a vu il y a quelques semaines et parfois on a vu il y a quelques dizaines d'années. Au sommaire de cette émission, on va évidemment revenir sur cette semaine marquée par le printemps du cinéma qui est actuellement en cours puisqu'on enregistre lundi et vous êtes peut-être même en ce moment même dans une salle. Le printemps se terminera pour ce qui est du cinéma demain soir. On parlera bien sûr aussi des films à venir, mais également du lancement d'un blockbuster très attendu aux États-Unis et dans d'autres pays, le film SOS Fantôme, le nouveau SOS Fantôme. Et je voulais commencer cette émission par un retour sur une nouvelle dont on n'avait pas parlé lors de la dernière, mais qui malgré tout marque ce mois de mars, c'est la fin de la société de distribution Réseau Film. Réseau Film, donc, qui mardi 12 mars dernier a été placé en liquidation judiciaire. Alors, bon, c'est vrai que dans le milieu, on savait que on va dire que la tendance n'était pas au beau fixe pour cette société portée par Jean-Michel Rey. Et c'est vrai que c'est une société qui nous tient à cœur parce qu'elle a sorti quand même plus de 400 films, ce qui n'est pas rien. Une société qui a 32 ans d'existence, qui a été marquée par d'immenses succès. Alors Réseau continue son activité de production, mais c'est vrai que ça va faire un grand vide. On peut citer quand même parmi leurs plus gros succès, puisque je ne vais peut-être pas vous demander autour de cette table quels seraient les plus gros succès, ce ne serait pas forcément évident.
Vipère au point.
Voilà, mais là, c'est au hasard que tu nous sors ça, parce que je pense qu'il a regardé les stats. Mais c'était, bien sûr, Vipère au point de Philippe de Broca, l'un des derniers rôles, je crois, de Jacques Villeray, en 2004, qui avait totalisé 1 204 000 entrées. Le Papillon aussi, l'un des rôles marquants de Michel Serrault dans la fin de sa carrière, qui avait totalisé plus d'1 100 000 entrées. Bernie, alors là, c'est un film dont on a déjà parlé justement dans un C'était mon film, je crois, Bernie d'Albert Dupontel. Charlotte ?
Non.
Je ne sais pas s'il est sorti celui-là.
Non, c'était pas. Alors on avait parlé.
Il n'est pas sorti effectivement, Aurélien.
Il n'était pas sorti encore, mais on en avait parlé dans une autre émission sur Débris Film, je ne sais plus laquelle, peut-être à l'occasion de la sortie du dernier Dupontel. Quoi qu'il en soit, c'était un film qui avait également marqué son temps en 96 avec 849 000 entrées. On peut citer également Mademoiselle, Rien sur Robert, Mademoiselle Chambon, Two Days in New York, qui avait été aussi un beau succès, L'Esquive, qu'avait révélé Abdelatif Kechiche, Romance de Catherine Breillat. Enfin, tous ces films-là ont été des beaux succès pour réseau, et c'est loin d'être exhaustif. Hein. Évidemment, on pourrait aussi citer Blanc Cagnébès.
J'ai perdu mon corps.
Ou encore Atan Arjouat. Enfin, voilà.
On
a envie d'en citer beaucoup. Même des films américains aussi qui s'étaient fait remarquer. Je me souviens de Buried. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film indé américain, quelqu'un qui se fait enterrer vivant.
Bah, bien sûr, Ryan Reynolds.
Voilà, c'était pour tester votre cinéphilie. Mais également plus récemment, un film d'animation, J'ai perdu mon corps, qui avait fait beaucoup parler de lui, qui avait aussi été un très beau succès. Je ne sais pas si vous avez aussi d'autres souvenirs, vous, là, comme ça, qui vous viennent à l'esprit. Mais,
Moi, je pense à Maestro, avec Michael Lonsdale, qui était un des derniers films marquants avec Michael Lonsdale, et puis Omar Maï également.
Oui, Frozen River.
Frozen River, qui avait marqué aussi.
Exactement.
C'est vrai.
Et aussi, très important, Les Clés de la Bagnole.
Les Clés de la Bagnole de Laurent Baffy.
Quelle promo, faut pas s'oublier.
Ouais. N'y allez pas, c'est une merde.
Exactement.
C'était l'accroche qui était sur l'affiche. Et tu citais tout à l'heure Tom Maestro, qui ancrait son intrigue dans le tournage d'un film d'Éric Rohmer. Et aussi, signalé que Réseau a été le dernier distributeur d'Éric Rohmer avec Les Amours d'Astrée et Céladon. Et c'est vrai que Les Clés de Bagnole, pour revenir, après on pouvait passer de Robert à Baffy, Les Clés de Bagnole, c'était 182 000 entrées. C'était quand même plutôt pas mal. Donc voilà, il y avait eu beaucoup, Trouble Every Day aussi.
Incroyable.
Voilà,
Robert.
On parcourt comme ça
la
tous ces films.
La jupe.
Ouais. Anatomie de l'enfer également. Enfin, bon, y a énormément de films qui ont jalonné l'histoire de Réseau Film. Et vous le connaissez forcément, vous qui allez au cinéma plus ou moins régulièrement, ce logo de Réseau. Et ça, je vous cache pas que ça fait quelque chose au cœur, hein, de savoir qu'on ne verra plus Réseau en tant que distributeur, tout du moins dans des prochaines sorties. Alors, c'est vrai que l'âge d'or de Réseau était quand même un peu passé, mais néanmoins, il était toujours là. On pense aussi évidemment au programmateur Florent Bugeau, qui a été nombreuses fois sur Débris Film et qui, voilà, à chaque fois, était un plaisir. C'était un plaisir de dialoguer avec lui sur chacune des sorties. On espère retrouver évidemment tous ces acteurs de l'ombre eh bien, sur de nouveaux projets, mais signaler quand même aussi qu'il y a eu un communiqué du syndicat des distributeurs indépendants pour justement déplorer la fin de cette aventure. Et tout le monde a salué, bien sûr, le fait que c'était un acteur majeur de la distribution indépendante qui se voit contraint de cesser son activité. Symbole de la fragilité structurelle d'une profession qui aujourd'hui plus que jamais demeure le secteur le plus à risque de la filière cinématographique. Et d'ailleurs, il faut quand même signaler hein, que ce n'est malheureusement pas le seul distributeur à avoir fermé ses portes, même depuis la naissance de Débris Film, puisqu'on peut penser aussi à Happiness Distribution qui avait fermé ses portes, ou même bien sûr à Mars Film qui a été pendant longtemps l'un des fers de lance de la distribution en France et qui a dû fermer. Océan Film également, enfin j'en oublie certainement, mais c'est toujours triste et ça donne quand même à chaque fois malgré tout aussi une idée de l'état de la distribution. Et on a beau nous essayer de mettre en avant les succès et de mettre en avant les choses positives, malgré tout, tout n'est pas rose, loin de là. Et on souhaite en tout cas le meilleur à tous ceux qui étaient dans cette aventure. Voilà, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Non, ça nous... Non, Julien.
Non, j'allais dire, c'est vrai que c'est, comme tu dis, dès le départ, à la base, Réseau Film, c'est 400 films distribués. C'est vrai que sur les dernières années... on regardait moins, mais c'est vrai que les entrées, c'était plus compliqué à obtenir, pour dire que voilà, ça tient à peu de choses. On ne sait jamais quand on va fermer, comment on va tenir. Chaque film, c'est un risque. Mm. Chaque film met en danger la société de distribution. Donc voilà, c'est une économie sur l'année. Il faut aller chercher au moins 2 ou 3 succès par an, c'est jamais établi à l'avance. C'est un pari, c'est un risque. Donc non, comme tu dis, c'est triste. C'est vraiment un pan de l'histoire du cinéma en France qui s'en va et qui permettait en fait de faire découvrir plein de talents. Et c'était encore presque une espèce de double métier, puisque Il y a plein là. Bah, justement, on voit Albert Dupontel, il a commencé chez Réseau. Bah, si Réseau n'existait pas, peut-être qu'Albert Dupontel, on n'aurait pas ses films aujourd'hui à plus de 2 millions d'entrées. Donc,
Et signaler quand même, pour vous dire à quel point c'était dur quand même ces dernières années, Réseau a sorti près de 30 films depuis 2020. Et aucun n'avait passé les 100 000 entrées. Un seul était arrivé tout début 2020, donc avant la crise du Covid, à passer les 50 000. C'était « Je ne rêve que de vous ». Mais tous les autres, donc post-crise du Covid ou pendant, sortis pendant la crise du Covid, n'ont malheureusement pas passé le seuil des 40 000 entrées. 40 000 entrées, et encore, je suis gentil, parce qu'il y en a un qui était à 37 000, les autres étaient sous les 30 000 entrées. Donc, c'est dire aussi, quand on parle de nombre de films, il y a quand même plus de 20 films sortis, plus de 25 films même qui ont fait moins de 10 000 entrées chez Réseau. Et c'est là où on voit aussi la difficulté aujourd'hui d'exister et qu'on tombe assez facilement, quand on est un distributeur indépendant, dans un engrenage où, comme tu le disais, Julien, il y a besoin d'un succès. Si le succès n'arrive pas, on n'a plus les moyens de promouvoir les films qui viennent derrière et ça devient très compliqué.
Et presque, je rajouterais la difficulté, c'est que ce n'est pas des films ni de plateforme. Au cinéma, c'est compliqué à mettre en place, à sortir. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'il se situe exactement, c'est pas évident. Voilà. C'est pas évident, on peut le voir sur les chiffres, mais malheureusement, c'est indispensable. Et les premiers films, les nouveaux réalisateurs, ils arrivent dans des plus petites boîtes de distribution indépendantes. Mais ce n'est pas parce que le film ne fait pas l'entrée que derrière, ils n'auront pas une carrière, que derrière, ce n'est pas indispensable. Donc, c'est une économie très délicate et très compliquée. Et comme tu dis, c'est vrai que le dernier gros succès, c'était J'ai perdu mon corps, qui avait fait plus de 200 000. Mais ça remonte un petit peu. Derrière, au niveau de l'économie, c'est compliqué de suivre.
Max, tu voulais intervenir ?
Non, mais je voulais dire la même chose. Ça montre aussi à quel point c'est dur de passer les 100 000 entrées pour des projets vraiment, vraiment indépendants. Et il y a des projets qui sont vraiment durs à travailler. Et donc, c'est vrai que c'est bien d'en parler, mais c'est dommage qu'une société comme Réseau doive fermer ses portes.
Voilà. Et cet état du marché, on va en reparler évidemment tout à l'heure. Là, pour l'instant, on va sans transition passer au côté US et international pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Petite jingle et Julien, c'est à toi.
Allez, c'est parti pour le box-office US. Donc cette semaine, on est sur un week-end à 99 millions de dollars de recettes. La semaine dernière, souvenez-vous, on était à 87. Et la semaine encore précédente, on était à 136. Cette semaine, en tête, c'est Ghostbusters, Frozen Empire, qui démarre avec 45 millions de dollars de recettes. Alors, ça le situe où par rapport à la franchise, puisqu'on est à quel numéro ? On en est au numéro 5. Et ben, c'est pas très compliqué. Alors, sans parler des vieux, mais si on met en place l'inflation, ils arriveraient à peu près autour des 40 millions de dollars en opening weekend. Mais si on reprend les deux derniers, Afterlife, il avait fait 44, je crois. Ouais. Et je n'ai pas le chiffre du 2016.
Le remake féminin,
mais il ne devait pas être loin, voire légèrement au-dessus, si je ne me trompe pas, alors qu'on disait que c'était presque un échec. Et finalement, il démarre juste un petit peu en dessous du 2016.
Je ne sais plus combien il avait fait le 2016.
On va retrouver. Non, c'est une franchise un peu singulière quand même, Ghostbusters, puisque comme vous l'avez peut-être noté, il y avait eu deux épisodes canoniques dans les années 80 qui s'étaient d'ailleurs suivis de façon très rapprochée. Ça fait partie des rares suites qu'on peut regarder sans zapper d'un film à l'autre et où tout se suit parfaitement avec les mêmes acteurs et le même univers. Et puis après un gros laps de temps sans film Ghostbusters, jusqu'à arriver à ce remake, comme on le disait, en 2016, qui prenait un peu le contre-pied total
46,
du premier.
Il avait ouvert.
Et puis après le retour, post-Covid, avec le fils d'Ivan Reitman, Jason Reitman, qui est revenu aux manettes pour Ghostbusters l'héritage, et celui-ci qui tente un peu de mixer nouveau et ancien, si j'ai bien tout suivi.
C'est exactement ça. Mais c'est une histoire de famille. et qui tient à cœur aussi à Dan Aykroyd, puisque c'est vraiment lui la pierre angulaire avec Ivan Reitman sur le projet Ghostbusters. Au niveau worldwide, alors c'est marrant.
Attends, Tom, vous voulez intervenir.
Par contre, je voulais préciser que cet épisode n'est pas réalisé par le fils d'Ivan Reitman, il en reste néanmoins le co-auteur du scénario. C'est Gil Kenan qui réalise cet épisode.
Et qui n'est pas n'importe qui non plus, puisque sauf erreur de ma part, c'est celui qui avait réalisé un film qui est à découvrir si vous ne le connaissez pas, c'est Monster House en 2006, sous influence Zemeckis un petit peu. C'est quelqu'un qui avait œuvré aussi dans la série Et Arnold, que certains d'entre vous ont peut-être découverte quand ils étaient plus jeunes. Voilà.
En tout cas, au niveau international, il a ouvert à 15% devant le Ghostbusters Afterlife. Au UK, il a démarré à 5,3 millions. Au Mexique, 2,7. En Australie, 2. En Allemagne, 1,7. Suivi de l'Espagne.
Et il est sur à peu près tous ces territoires. Il est juste au-dessus ou juste en dessous de Afterlife.
Et en tout cas, ça lui fait un cumul de 62 millions de dollars de recettes. Alors, ce n'est pas le premier worldwide. On y reviendra dans 5 minutes. Mais pour dire que avec 61 millions, si on se replonge sur le Afterlife, au Worldwide, il avait terminé à 204. Le premier Ghostbuster, celui de 84, il avait terminé à 296 millions de dollars de recettes. Le deuxième, 215. Et celui de 2016, 229 millions de dollars. Donc, a priori, il est sur le même trend et il devrait aller chercher les 200 millions de dollars. Bon. En deuxième position, on retrouve Dune. Alors, c'est toujours la question, Dune en route vers le milliard ou non?
Alors, sachant que là, tu parles de deuxième position du box-office US.
US. Voilà. J'avais dit au Worldwide, on n'y est pas encore, mais on y revient juste après. Parce qu'au niveau Worldwide,
c'est pas tout à fait le même classement.
C'est pas exactement, on refera un classement rapido sur le Worldwide. Donc, Dune, il en est où? Il a ramassé 17,6 millions ce week-end, c'est moins 38% par rapport aux 29,1 millions de la semaine dernière, ce qui lui permet d'atteindre 233 millions aux États-Unis, alors que le premier, lui, a terminé à 108 millions de dollars. Si on prend Oppenheimer, on l'avait déjà fait la semaine dernière, mais on vous redonne les chiffres parce que vous les avez déjà oubliés, hein. Donc il avait terminé à 329 millions, donc 233 pour Dune, 329 pour Oppenheimer. A priori, il devrait terminer aux alentours de 275 selon les estimates, donc légèrement en dessous. Au niveau worldwide, donc la question c'est, peut-il atteindre le milliard? Je pense que ça va être un petit peu compliqué. Il est aujourd'hui à 574 millions, dont 124 en IMAX. Important de le rajouter, c'est ouais. Le huitième meilleur résultat en IMAX.
C'est-à-dire si ça booste aussi l'ensemble des recettes.
Évidemment, et j'ai plus les chiffres, mais je crois que c'était Oppenheimer qui détenait le record du nombre d'entrées en IMAX. Et c'est pour ça que lui s'est rapproché, en tout cas, parce que Oppenheimer n'a pas passé le milliard de dollars, il doit être à 980. Donc peut-être qu'avec les ressorties, il va y arriver. Mais pour dire que ce chiffre symbolique n'est jamais évident à atteindre.
Surtout que tous les marchés sont déjà sortis le film, non? Ou c'est,
sur Dune, oui, puisque je crois qu'il en restait un, c'était la Chine ou le Japon qui avait dû le sortir la semaine dernière. Donc là, tous les territoires jouent le film. Après, il reste en tête dans beaucoup de territoires. Donc c'est loin d'être fini, mais bon.
En tout cas, pour Dune, on peut résumer en disant que c'est un très très bon score, c'est bien mieux que le précédent, mais il va peut-être quand même pas réussir à atteindre le milliard.
Et le précédent avait terminé à 443 ou 431. Vous choisissez, c'est un des deux chiffres.
Alors, sur la suite du box-office US, Julien, est-ce qu'il y a d'autres choses notables?
Alors, Kung Fu Panda en troisième position, lui justement qui est en tête du Worldwide. Alors, on va aller vite sur Kung Fu Panda, mais donc au niveau Worldwide, donc il a rajouté aux US, il a rajouté 16,8 millions. Ça lui fait un cumul de 133. Et au Worldwide, il est à 268 millions, qui est déjà un excellent score, puisque c'est déjà le score de Wish et Migration, qui avaient terminé tous les deux dans ces eaux-là, autour de 250-280. Alors, pour rappel, on est quand même loin des précédents Kung Fu Panda, puisque le premier Kung Fu Panda avait terminé à 632 millions, le deuxième avait terminé à 665 et le troisième à 521. Donc voilà où est-ce qu'il va terminer, on pense autour des 350-400, qui aujourd'hui, depuis le Covid, reste un excellent score pour les films d'animation, puisqu'ils ont encore de plus en plus de mal à aller chercher, alors c'est pas la barre du milliard, mais c'est plutôt la barre des 500 millions de dollars de recettes. On retrouve après un petit film d'horreur, Immaculate, qui est sorti en France par Metro. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un effet Sidney Sweeney ?
Peut-être.
Mais je ne crois pas. Grave. Ça avait marché sur Anyone But You, mais pas sur Immaculate, puisqu'il ouvre à 7,5 millions worldwide. Il a fait 5,3 millions aux US. Généralement, sur les derniers films d'horreur, c'est vrai qu'il faut que ça tourne entre 15 et 20 en opening weekend aux US. Et on sait que c'est un des marchés les plus porteurs sur les films d'horreur. Donc on va voir où il va terminer. Mais pour moi, c'est un petit peu en dessous des attentes. Ou en tout cas, voilà. C'est pas un mauvais score. Le film existe, mais en dessous des précédents films d'horreur, même avec des petits budgets.
Ouais, mais le bouche à oreille sur les films de Sidney Sweeney, il n'est pas comparable.
Alors peut-être qu'en deuxième semaine, il y aura le même effet qu'on a pu avoir sur Anyone But You. On verra ça la semaine prochaine, évidemment. Alors, donc quatre films américains en top du worldwide, c'était pas arrivé, je crois, depuis le début de l'année.
Ouais, tout à fait. Là, on revoit une prise de force de studio. Et à noter quand même que sur les quatre films, deux ne sont pas encore sortis en France. Ça va être le cas de l'un de ces deux films mercredi prochain. Mais
mercredi et le 10 avril pour Ghostbusters. Mmh. D'ailleurs, il y a pas mal de pays qui sortent le film le 10 avril pour Ghostbusters.
Ouais.
Derrière, on a un petit film taïwanais. Pig, The Snake and the Pigeon, lui qui cumule 85. Exuma, film coréen qui en est à 74 millions worldwide. Arthur the King, on en avait parlé la semaine dernière, qui a un peu de mal aux États-Unis avec Mark Wahlberg, qui est à 15 millions worldwide. Imaginary, alors à nouveau film d'horreur, 34 millions. On est sur du worldwide. Alors celui-là...
Un film japonais au titre imprononçable.
Haikyuu the Movie, Decisive Battle at the Garbage Dump.
Merci Max d'avoir tenté.
C'est l'animation 47 japonaise.
Millions de dollars worldwide. Et on termine avec Late Night with the Devil, 3 millions de dollars, qui est un film australien.
Bien, merci beaucoup Julien. On va tout de suite évidemment revenir sur ce qui s'est passé en France. Mais avant ça, eh bien, je voudrais comme ça vous poser autour de cette table la question me paraissait un peu importante quand même au regard de ce qu'on va dire sur le box-office France. C'est cette question du printemps du cinéma, parce qu'on dit à chaque fois que le printemps du cinéma est important, et il l'est, on va le voir sur le reste du dimanche. Mais néanmoins, pour rebondir sur ce que tu disais à propos d'SOS Fantôme et de Kung Fu Panda, j'ai le sentiment quand même que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de films à sortir pour le printemps du cinéma. Au contraire, on a même le sentiment que certains films sont sortis après, que les avant-premières des gros films ont eu lieu avant le printemps ou ont lieu après le printemps. Est-ce que vous avez un peu ce sentiment-là aussi, vous, par rapport au printemps du cinéma, sur le côté distribution ? Parce que force est de constater que la semaine qui vient de s'écouler ou qui est encore en cours, là, n'a pas été une semaine très porteuse pour le marché.
Moi, je suis globalement d'accord avec toi. Après, c'est vrai que ce que je trouve bien aussi, c'est que ça a permis à certaines propositions, et ça, on en reparlera pendant le box-office France, de clairement gagner en visibilité et de monter, parce que les distributeurs qui ont décidé d'être présents pendant ce printemps du cinéma, finalement, ça a été quand même assez bénéfique. Mais effectivement, il y a un gros blockbuster américain qui est Dune, et puis après, il y a beaucoup de comédies françaises, et il y a effectivement SOS Fantôme qui va arriver après, Godzilla qui arrive après.
Mais Dune qui est là depuis 4 semaines quand même.
Oui, absolument.
La question aussi qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on cherche avec le printemps du cinéma ? Alors, vu le prix de la place, c'est pas de la rentabilité monétaire qui est cherchée, mais c'est de la visibilité. Alors, peu importe finalement les films qui sont proposés, s'il n'y a pas de grosses propositions, et manifestement il n'y en a pas, puisque comme tu le disais à l'instant, Dune est dans sa quatrième semaine, donc il a déjà engrangé on va dire peut-être 70-75% de ses entrées et fin de carrière. L'intérêt, c'est les films qui viennent derrière. Et on voit bien que certains sont en train, parce qu'au moment où on enregistre le podcast, on est encore au milieu du printemps du cinéma, sont en train d'en tirer des bénéfices au niveau de leur bouche à oreille et au niveau de la visibilité. Donc à ce niveau-là, finalement, je dirais que c'est pas l'offre de films qui drive le printemps du cinéma, mais c'est vraiment le printemps du cinéma qui drive les films, peu importe la proposition.
Maintenant, c'est vrai aussi, et je pense que certains ici sont d'accord avec moi, que la notion de prix de place a une incidence à la fois pour les spectateurs, mais aussi pour les distributeurs. Parce que on a beau raisonner en termes d'entrée, il y a quand même certains choix de placement de films qui sont faits aussi en fonction du fait que si on a un prix moyen à 5 euros, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui avec les formats spéciaux où le prix moyen est beaucoup plus élevé dans les multiplexes.
Mais l'incidence, elle est financièrement importante pour les distributeurs, mais les distributeurs, dans leur calcul d'une sortie, ils anticipent le printemps du cinéma, non pas en termes de financiers, mais en termes de chiffres. Et c'est, par exemple, le printemps du cinéma, c'est ce qui va permettre à certains films de passer des paliers d'entrée qu'ils n'auraient pas forcément pu passer autrement.
Ouais. Non, mais je posais cette question parce que c'est vrai que j'ai l'impression on dit souvent qu'il y a des films faits pour la fête de cinéma, ou en tout cas qui ont un profil fête de cinéma, et le printemps du cinéma, là...
Alors c'est vrai qu'on pourrait couper en deux. C'est-à-dire que printemps du cinéma, plutôt une opération sur des films en continuation.
C'est ce que je voulais dire. Ouais.
Et c'est vrai que fête du cinéma, il y a beaucoup de nouveautés qui se posent, des films peut-être un peu plus fragiles. Et c'est vrai que tu arrives sur une période... c'est vraiment deux périodes différentes, puisque en mars, déjà d'une... pas le film. Hein. Je sentais la blague.
Premièrement.
Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films français à cette période qui sortent et qui profitent du printemps et qui ont besoin de cette visibilité et qui ont besoin d'exister. Ça peut être aussi, on pourrait s'en servir comme tremplin pour sortir des films un peu plus fragiles qui ont besoin d'un bouche à oreille. Mais donc, il faut être sûr de la qualité de son film. Après, tu disais les blockbusters. Bah, tu as eu Dune qui est sorti, mais il est sorti la dernière semaine des vacances de février ou sur les deux dernières semaines. Kung Fu Panda, si tu le sortais une semaine avant, ça aurait été compliqué d'attendre deux semaines, même si on peut le voir au mois de décembre, tu as des films qui sortent trois semaines avant les vacances de Noël, mais c'est des vacances complètement différentes puisque ça s'étale sur six semaines. Donc tu as très peu de films d'animation en mars qui vont sortir avant. Ghostbusters, c'est aussi le côté famille, et Godzilla versus Kong. Donc on sait que les blockbusters, Dune, c'est un film, un blockbuster adulte presque. Ouais. Alors que ce qui vient, comme on disait Godzilla, Ghostbusters ou Kung Fu Panda, c'est des blockbusters famille. Ils ont besoin des vacances.
Ouais. Max. Moi, je suis pas sûr d'être d'accord avec toi sur la question de l'impact du printemps du cinéma sur les dates. Parce que justement, l'impact du tarif, on voit qu'ils freinent pas les distributeurs à poser des films. L'année dernière, sur la fête du cinéma, il y avait Insidious qui sortait, il y avait Indiana Jones qui finissait sa première semaine, il y avait Miraculous qui sortait aussi, et qu'on fait des très beaux scores et qu'on en profitait. La différence, c'est le marché. C'est que là, on est sur un marché qui est quand même faible et qui est boosté légèrement par le printemps du cinéma, là où sur la fête du cinéma, avec l'été qui démarre, on voit justement, et on l'espère en général, un marché qui progresse juste après la fête.
Là, on est sur un marché un peu de transition entre deux vacances,
bah ouais,
et où on n'a pas l'assurance d'avoir tout l'été derrière nous, comme c'est le cas sur la fête du cinéma.
Si on sortir un film là, tout de suite, ou juste avant ou juste après le printemps du cinéma, avec le risque en fait de pas avoir l'énergie dans le film pour tenir jusqu'à la fin des vacances scolaires, c'est un risque qui est assez fort, surtout sur les films un peu familiaux. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de gens qui attendent. Je pense que c'est pas forcément en lien avec le printemps du cinéma, c'est en lien avec le fait que la date, elle est dure.
Ouais. Mais effectivement, moi j'aime bien ce qu'a dit Tom, quoi. C'est vrai qu'il y a tout un côté promotion qui va être hyper important dans les salles en fait, et les gens qui vont se déplacer finalement, les distributeurs qui ont des PLV en place,
oui, ou qui ont de la bande annonce,
vont avoir effectivement des FA, etc. C'est là-dessus aussi que ça peut jouer pour la suite.
En tout cas, il y avait quand même 15 sorties la semaine du 20 mars. Donc parmi ces sorties, qui a profité ou pas du printemps du cinéma? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite après un petit jingle.
C'est hyper beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
Que nous a réservé ce premier jour du printemps du cinéma?
Eh bien écoute, le printemps du cinéma démarre assez timidement pour l'instant, puisque, on le rappelle, sur ce week-end, il y avait seulement la journée dimanche qui était intégrée au programme du Printemps du cinéma. Et si on compare par rapport aux années précédentes, on note tout de même un recul important, moins 47% sur la journée de dimanche par rapport au premier jour du Printemps du cinéma en 2019, moins 50% par rapport à 2018, moins 40% par rapport à 2017. Un peu plus récemment, on est sur un moins 22 par rapport à 2022 et un moins 32% par rapport à 2023. Voilà. Évidemment, on le disait tout à l'heure, c'est aussi potentiellement l'offre de films qui fait que ce Printemps du cinéma démarre un peu plus mollement, mais on va le voir, il y a des films qui en tirent déjà les fruits, ce sont les films qui sont évidemment plutôt en haut du classement, et ce classement, lui, il est toujours dominé pour sa quatrième semaine consécutive par Dune, deuxième partie, réalisée par Denis Villeneuve. Il ajoute 356 000 entrées à son cumul, désormais à plus de 3 300 000 entrées pour Dune deuxième partie. C'est évidemment le film numéro 1 de 2024 et ça va être le film à aller chercher tout au long de l'année en haut du classement. Voilà. Est-ce que le game est déjà plié pour le ticket d'or ou il y aura encore un film qui est capable d'aller chercher les chiffres de Dune? Je vous pose la question.
Il fera partie Pardon, vas-y Charles.
Merci. Et à notifier qu'il vient de dépasser le premier opus, du coup, qui lui avait fait 3 millions de, si je ne me trompe pas.
Exactement. Mais c'est un peu tôt. Alors, il fera partie des films de 2024, évidemment, puisqu'il a pour ambition de dépasser les 4 millions. Et juste pour revenir sur le printemps du ciné, moi, je trouve ça quand même un petit peu inquiétant, en fait, les chiffres. Alors, est-ce que juste c'est l'offre? Mais c'est la première fois qu'on a une journée du dimanche aussi faible. Mmh. On est quand même sur une période inquiétante depuis janvier.
Ah, ce qu'il faut dire aussi, qu'on n'a pas dit en préambule, c'est que mercredi, jeudi, vendredi et même samedi ont été catastrophiques.
C'est exactement.
Là, on a vécu des heures sombres du box-office France. Enfin, je ne veux pas tirer la sonnette d'alarme, mais quand même, enfin, là, on est descendu à des niveaux qui étaient extrêmement bas. Et à tel point que le différentiel, effectivement, est plus fort que d'habitude entre les jours qui précèdent le printemps du cinéma et le premier jour du printemps, mais que le printemps lui-même est moins fort que les précédents.
Effectivement, mais le beau temps n'a pas aidé. Mais je me suis posé la question, moi, si ce n'était pas aussi une réticence des gens d'y aller le jeudi et vendredi, sachant que le printemps du cinéma allait arriver et que les places allaient être moins chères. Donc,
Bah oui, mais dans ce cas-là, le printemps aurait explosé. Le dimanche aurait explosé.
C'est pour ça que c'est inquiétant, effectivement.
Il a explosé par rapport, proportionnellement, à ce qu'ont été les premiers jours de la semaine.
Tout à fait.
Mais si on reprend par rapport aux années précédentes, ça va dans le sens de ce que tu dis, Julien, à savoir quand même une année décevante.
Ben, j'ai pas... alors, parce que... On termine à 750 000 le printemps. Alors, si on parle, en plus on parle business et on refait le calcul, c'est-à-dire que si ça avait été une journée normale avec un prix des places assez classique, on serait à 520 000 entrées. Donc, ce serait une journée supérieure au samedi, lui, qui a terminé à 450. Alors, sachez que quand le samedi ne passe pas...
Juste qu'on comprenne bien, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde nous ait suivi. on est sur un prix moyen de 5 euros, puisque tout le monde paye 5 euros, grosso modo. Et là, tu fais une hypothèse où tu passes à un prix moyen de...
Je suis à entre 7 et 7,2 euros.
Voilà, ce qui correspond à peu près à la norme.
À la moyenne de marché. Alors, aujourd'hui, elle est à 7,2, 7,3. Voilà.
Et donc là, dans cette configuration-là, on passe un dimanche qui aurait été conforme ou au-dessus des d'habitude.
Non, en dessous, on aurait été à 520 000 entrées, on va dire correct, voilà. Mieux que le samedi, mais un samedi à 450 000 entrées, c'est très faible. Généralement, on va chercher du 600, 700 000 entrées pour être dans la moyenne. Là, si tu veux, la moyenne, on est à 2 millions d'entrées, un tout petit peu en dessous. La moyenne de cette période, c'est 2,6 millions. En prenant en compte, donc voilà, moi j'ai une petite inquiétude, je sais que ça va repartir là avec les blockbusters pendant les vacances, on va y croire, mais les périodes creuses aujourd'hui sont vraiment creuses, ça veut dire qu'on est là redescendu en dessous de, on suit même plus la tendance de 2023, on est en dessous de la tendance de 2022, ouais. Donc on sait que, pour rassurer tout le monde, hein, y a pas non plus, on sait qu'à la fin de l'année, le mois de décembre peut être gigantesque, il peut battre... voire des records absolus avec ce que les distributeurs vous préparent. mais une année ne se joue pas que sur un mois.
Ouais, et puis c'est quand même dur de se dire au mois, fin mars, on attend décembre, quoi. Enfin, donner ça comme indication, ça en dit long sur la potentielle pauvreté des propositions jusqu'à là. Moi, je pense qu'il voilà, il faut pas être, il y a pas péril dans la demeure, comme tu dis, Julien. Il y aura des choses avant qui feront largement le taf.
Oui, et puis on va retrouver un petit peu de power au mois d'avril, mais à voir à quel niveau, parce que même février, souvenez-vous, c'était tout juste 15 millions d'entrées. On était en dessous des normes. En fait, on est tout le temps en dessous des normes, et là, on vient de passer en dessous de 2022. Bon. Donc, public, réveillez-vous.
Ouais, là, c'est bon. On va voir comment tout ça évolue, mais c'est vrai que là, on n'est quand même pas dans une bonne configuration. Néanmoins, Tom, tu disais que certains avaient pu tirer leur épingle du jeu de ce premier jour de Printemps du cinéma.
Ouais, à commencer par le film en seconde position qui ne cesse de nous surprendre, je le dis semaine après semaine. Une vie avec Anthony Hopkins en cinquième semaine, encore en deuxième position, il ne perd que 17% de ses entrées, 1 325 000 entrées pour le film distribué par SND. C'est évidemment une excellente performance.
Exactement, et à la troisième place, on trouve un deuxième film Warner.
La meilleure tenue du week-end.
La meilleure tenue du week-end,
sur
exactement.
Le top 10.
Non. En dixième position, on trouvera mieux. On y vient tout à l'heure. Alors, on va dire la deuxième meilleure tenue du week-end. Heureux gagnant, distribué par Warner. Lui cumule 241 000 entrées. C'est plutôt très bien pour une comédie de tenir de la sorte. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, clairement, c'est très très bien, notamment pour un film à sketch aussi. Et la question, c'est est-ce que Warner va réussir à aller chercher les 400 000 entrées ? En tout cas, on leur souhaite.
Après, on trouve une nouveauté qui apparaît à la quatrième place seulement de cette top.
Ouais, c'est assez rare pour le signaler. La première nouveauté de la semaine est un film d'horreur. Il s'agit de Immaculée, sorti par Metropolitan. On le rappelle. Deuxième film d'horreur sorti par Metropolitan en trois semaines après Imaginary. Ils profitent du fait que le créneau soit déserté en ce moment pour envoyer leur production horreur. Et ils ont bien raison. Quasiment 100 000 entrées, 96 000 entrées à l'issue de son premier week-end. C'est une tenue plutôt, un démarrage plutôt encourageant, je trouve, pour le film porté et produit par Sidney Sweeney, on le rappelle.
Et puis un film français derrière qui lui aussi est sorti cette semaine.
Oui, alors là c'est un peu plus compliqué pour Karaoké, réalisé par Stéphane Bellassène avec Michel Larocque et Claudia Tagbo. C'est la même équipe derrière Alors on danse, qui était sorti en 2021. Le démarrage est plus compliqué pour ce film-là, film également musical, 81 000 entrées pour une production et distribution entre guillemets typique de ce que peut nous proposer UGC. On sent que là, il n'y a pas forcément de public sur le démarrage pour Karaoké. 81 000 entrées, c'est assez faible jusqu'à présent.
Alors on danse, il avait ouvert à 107 000 entrées.
Ouais, un peu mieux. Mais là, ce qui est inquiétant, c'est cette sortie très large, hein. 567 copies et seulement 131 spectateurs par copie. Mmh. C'est compliqué.
Et c'était la plus grosse sortie de la semaine en cours. Il est suivi par Le Phénomène Italien, dont on a déjà parlé longuement dans cette émission.
Oui, Le Phénomène Italien, il reste encore demain, film en noir et blanc, qui avait été évidemment un carton en Italie, plus de 5 millions d'entrées. Pour son deuxième week-end en France, et sans avoir forcément élargi énormément son plan de sortie, puisqu'il est désormais annoncé à 213 copies, il reste encore demain, cumule 219 000 entrées, il ajoute 73 900 entrées à son total. C'est une excellente performance, ça en fait l'un des films italiens les plus porteurs depuis des 10 dernières années en France, et je le disais, sa carrière n'est pas finie, ça va être plutôt un film qui va se jouer, Julien, je crois, sur la durée, hein, sur Il reste encore demain.
Oui, exactement, et puis comme tu dis, je pense que le nombre de copies va s'élargir, c'est un très beau démarrage, très bien maîtrisé, il est en 7e position sur les films italiens sortis depuis 2010, je pense qu'il a comme objectif d'essayer de passer devant Le Traître qui est à 360 000, peut-être un peu plus dur Mia Madre qui est à 470 000, mais après, toujours difficile de savoir exactement où il va s'arrêter. parce que c'est des films qui fonctionnent au bouche à oreille, la tenue est très bonne.
Et il a la meilleure moyenne par copie du top cette semaine,
c'est la deuxième meilleure moyenne juste derrière Dune.
Non, premier.
Il est premier.
Ah, mais il change tous les chiffres aussi entre
premier le matin et le. 327 pour Dune, 347 pour Il reste encore demain. Donc, tout est dit.
Tout est dit. Bon, c'est le premier.
Septième place pour un autre film français qui est sorti cette semaine, Tom.
Oui, nouveau film réalisé par Stéphane Brisé, hors saison, porté par Guillaume Canet et Alba Rochevacher.
Rochevacher,
on va dire comme ça. Hors saison, donc sorti par Gaumont, 80 989 entrées. Alors on pourrait considérer, donc sur une combinaison de 335 copies, notons-le, on pourrait considérer que c'est un démarrage faible, mais finalement, on est dans la moyenne des films de Stéphane Brisé, Stéphane Brisé qui a tendance plutôt lui aussi à faire des carrières sur la durée. Après maintenant, quel est l'objectif désormais pour le film? Peut-être aller chercher 200, 250, voire 300 000 entrées. Ça serait déjà un joli cap à atteindre pour le film.
Bah, disons qu'il n'y avait que deux films de Stéphane Brisé qui avaient fait plus. C'était Un autre monde et Mademoiselle Chambon, qui faisaient tous plus de 100 000 entrées au week-end. Mais les autres, notamment En guerre, qui faisait 72 000.
Quelques heures de printemps,
70 000. Une vie qui, malheureusement, n'avait fait que 36 000. Donc, voilà. On va voir comment tout ça évolue. Mais effectivement... Là, pour l'instant, il est dans une trajectoire quand même assez commune de films d'auteurs sortis en France ces derniers mois et qui finissent autour des 200, 250, 300 pour quand ça se passe très bien. Voilà, on verra ce qu'il en sera.
En huitième position, c'est une des comédies, voire la comédie qui a le mieux performé durant les vacances de février, qui continue sa tenue à l'issue de sa sixième semaine. Je parle de Maison de retraite, deuxième épisode de Claudie Di Junior, 1 455 000 entrées pour le film distribué par Apollo. Voilà, après avoir transformé l'essai sur le premier épisode, c'est également une réussite. C'est le doublé sur le deuxième épisode qui, on rappelle, coûtait un peu plus cher tout de même, mais ça reste quand même une très belle performance et une très belle réussite pour Apollo Film, son distributeur.
Boléro profite aussi un peu du printemps pour limiter sa chute.
Ouais, le film de Anne Fontaine qui perd lui que 23% de ses entrées. On n'entend pas forcément beaucoup parler, mais il continue à réaliser sa belle carrière et il confirme la très très bonne année en cours chez SND. 322 000 entrées au cumul pour Boléro, porté notamment par Raphaël Personnaz. C'est une belle performance. Il a augmenté pour sa troisième semaine son nombre d'écrans. Il a 665 écrans désormais. Et ça fait partie de ces films-là qui peuvent tirer aussi leur épingle du jeu du printemps du cinéma.
Et justement, SND qui clôture le top 10 avec un film dont on parle maintenant depuis 7 semaines.
La plus petite chute du coup, Tom.
Ouais, exactement, la voilà, on y vient en 10e position. Et c'est le 3e
film. Encore des chiffres trafiqués.
C'est le 3e film SND dans le top 10. Il s'agit de Cocorico, 1 863 000 entrées. Excellente performance pour le film porté par Christian Clavier et Didier Bourdon. C'est la même carrière copier-coller que Chasse gardée, sortie fin 2023. Et ça confirme la très bonne cote, on peut dire, de Didier Bourdon en France actuellement. Voilà, Cocorico, porte des 2 millions d'entrées.
Que Cocorico était là, parce que déjà personne ne l'attendait à cette hauteur. Oui. L'année dernière, on avait quand même Astérix et Alibi. Donc, ce n'était pas évident de prendre le relais et bravo. Superbe score.
On parlait de plus faibles chutes, mais il y a aussi des petites hausses dans le top, on n'en a pas parlé. Au-delà du top 10, deux films qui ont réussi là encore à être boostés par ce week-end.
Bah, effectivement, en tout cas, il y a un premier film qui est donc Chien et Chat qui va rajouter 36 000 entrées, à savoir faire une augmentation de 6% à son cumul, qui a atteint le million.
Qui a déjà atteint le million la semaine dernière.
Ah oui, c'est ça, qui a déjà atteint le million, pardon.
Mais effectivement,
pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'en termes de propositions familiales, vraiment pour les enfants et les parents, c'est vrai que Chien et Chat est un peu seul. Et donc, il profite aussi de ce printemps du cinéma de la meilleure des manières.
Il était accompagné du Dernier Jaguar aussi, qui fait plus de 10%. Exactement. Et qui, lui, va atteindre le million, peut-être, sait-on jamais, grâce au printemps ou au week-end qui vient.
Ce qui montre aussi que les familles sont vont au cinéma pendant le printemps du cinéma.
Oui, j'allais dire justement, on voit bien que les films qui ont le plus profité du printemps du cinéma sont les films qui ont le moins chuté, donc Cocorico, Le Dernier Jaguar et Chien et Chat qui ont eu du coup le plus gros dimanche par rapport au reste du week-end.
Exactement, on n'a pas parlé de la sortie du pacte de cette semaine, Tom.
Bah non, il faut en parler en 13e position. Bis Repetita, comédie portée par Louise Bourgoin au pacte. 38 000 entrées, c'est un démarrage compliqué. Tout de même sur une combinaison de copies limitée à 197 copies, mais qui ne permet pas pour autant une belle moyenne, puisque le film réalise uniquement 191 copies. Entrée par écran, ce qui est assez limité. À noter également en 15e position La Très Bonne Tenue, et ça c'est à mettre plutôt du côté ARS de La Salle des Profs. Le film allemand nominé aux Oscars, lui, est à 177 000 entrées, moins 13% seulement sur son troisième week-end. Le film a augmenté sa voilure, il est désormais sur 335 écrans. La barre des 200 000 entrées va être atteinte par le film distribué par Tandem.
Très bien, et on peut aussi noter Anatomie d'une chute qui fait encore moins 16%, encore 24 000 entrées au compteur.
Mais on a dit qu'on arrêtait d'en parler après la 20e semaine.
C'est ça. Donc... Bon, voilà.
Alors moi j'ai un petit jeu lié justement encore au printemps du cinéma. C'est pour voir un petit peu près le pourcentage que représente le dimanche sur le week-end pour chaque film, parce que ça varie justement. Max disait, ça profite aux familles. Par exemple, le dimanche de Dune représente combien sur son total week-end?
Eh bien, le dimanche de Dune...
À peu près 140 000 entrées sur 300...
Voilà, 56. Tu fais le calcul en direct.
Un peu moins de 50%.
On est à 40%. Ouais. Une vie, par exemple, c'est 50%. Euro-gagnant, 50%. Immaculé, c'est presque un des plus faibles films qui profitent du printemps du cinéma, mais c'est assez logique, puisque c'était un dimanche, que c'est un film d'horreur, ça ne représente que 32%. Il reste encore demain, c'est 38%. On avait quoi d'autre? Alors, Sauvé, par exemple, Karaoké, on est à 46%. Les plus hauts scores, ça va être Maison de retraite avec 55%. Le Dernier Jaguar, 63%. Donc, c'est des films qui profitent pleinement de cette opération. On retrouve, comme tu disais, Max, le côté famille, mais pas que, puisque, par exemple, Une vie, j'aurais pas dit que son dimanche allait représenter 50%. Mais donc, voilà, c'est vrai que ça rejoint un petit peu, comme on disait, les continuations. Kung Fu Panda, c'est vrai que s'il était sorti, on peut voir qu'il y a le côté famille, il aurait sûrement réalisé un très bon score. Mais on avait pu le voir avec La Fête du Cinéma, quand il y a souvent des films d'animation. Miraculous, l'année dernière, je crois qu'il fait quand même un tiers de ses entrées sur la journée du cinéma. Les Mignons, il avait fait aussi 500 000 entrées. Donc, c'est des journées, c'est vrai que le prix est moins cher, donc forcément on a envie d'emmener un peu toute la famille.
Et tu parlais d'Immaculé, je pense qu'on peut parier qu'Immaculé sur les soirées d'aujourd'hui, de lundi soir et de mardi
marchera
soir,
mieux.
Là il va performer.
À noter aussi Une famille, le film de Christine Angot, distribué par Nourfilm, qui fait un beau démarrage avec près de 23 000 entrées même avec avant-première sur seulement 83 copies. Donc ça fait partie des belles surprises de la semaine.
Ouais, et également Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant chez Wine Appitch, c'est un film de genre québécois, 15 000 entrées au démarrage, et c'est pas si mal.
N'hésitez pas à regarder la bande-annonce.
Voilà,
et aller voir le film.
On aurait pu parler encore de pas mal d'autres choses, mais vous avez un petit aperçu de ce que ça a été, ce box-office. On passe tout de suite au sondage de la semaine à venir. Mafili, comme tu es là, je te laisse donner les quatre films de ce sondage qui a été posté simultanément sur X et aussi... sur Threads.
C'est ça. Assez timide sur Fred. Donc, si vous avez un compte, n'hésitez pas à nous suivre.
Ouais.
Les quatre films de la semaine étaient Kung Fu Panda, sorti par Universal, Le Jeu de la Reine, on m'entend pas très bien, Le Jeu de la Reine par ARP Sélection, Pas de Vague par Ad Vitam et La Promesse Verte par Diafana. En tête, c'est très serré. D'après vous, quel film se distingue un peu des autres?
Eh bien, écoute, moi j'aurais dit La Promesse Verte aussi. Ouais. Oh. Mais...
Eh bien, vous avez tout faux. Le premier, c'est Pas de Vague avec 34%.
Moi j'aurais dit Pas de Vague.
En tête.
Magnifique.
Très naïve.
Ensuite, ex aequo, c'est Kung Fu Panda et le jeu de la reine, 31%. Et on finit par La Promesse verte à 4%.
Okay. C'est assez haut hein, pour un film d'animation, Kung Fu Panda, 30% dans notre sondage, ça montre quand même qu'il y a une envie sur le film qui est très forte. On l'a vu déjà avec les avant-premières qui ont fait, je crois, plus de 100 000 entrées, non ? Ou
c'est ça, exactement. Et puis, il n'y a pas eu de film d'animation depuis Migration, Wish, et puis les 2-3 films de Noël. Mais en tout cas, voilà, il y a une attente pour la famille.
Et La Promesse verte, on supputait qu'il sera en tête parce qu'il y a eu aussi des belles avant-premières, notamment, je crois que c'était jeudi dernier hein, chez Pathé. Grosse avant-première, voilà, grosse sortie pour Diafana. On l'a signalé, donc c'est le nouveau film de on l'a pas dit non, d'ailleurs, je crois, le film d'Edouard Bergeon qui avait fait le film avec
Au
nom de la terre, voilà, le film avec Guillaume Canet qui a fait plus d'un million d'entrées, donc
1,5 million.
C'est son 1,5 million, merci Julien. À noter également, donc tu l'as signalé, Le jeu de la reine, Pas de vague, c'est chez Advitam. Paternel, chez KMBO. L'affaire Abel Trem, c'est chez Memento. Los Delinquentes, c'est chez JHR. T'avais voulu le mettre dans le sondage, Los Delinquentes.
Oui, parce que il a eu un prix à un certain regard à Cannes, c'est bien ça.
Ouais, c'est ça. Non, mais
et donc je me suis dit quand même.
Il est très soutenu par la RAS, ouais, effectivement. Donc il y a beaucoup. C'est toujours un crève-cœur hein, de mettre les films dans le sondage. Il y a toujours beaucoup de films qu'on aimerait mettre et qu'on ne peut pas mettre, mais bon, on en met que 4. Je disais, il y a également Apollonia, ça c'est chez Survivance. L'effet sorcière, c'est chez les films du Whippet. Épicentre sort Au Corneau, une histoire de femme. Et puis après, dans les moins de 10 écrans, vous les verrez probablement pas trop passer, mais on les cite quand même. Nous serons toujours là. L'attaque du bloc d'or, La théorie du boxeur et Morrison, chez Jour de Fête tout de même, hein, à signaler, qui sort dans une toute petite combinaison. Donc nous verrons comment tout cela se comporte. Et à noter également chez Condor des séances spéciales pour Alienoid, un film, donc Alienoid, Les Protecteurs du Futur, c'est le titre complet, film qui a fait beaucoup parler de lui en Asie et qui sort dans 500 séances exceptionnelles. Je crois qu'il est déjà dispo sur support physique, mais là c'est un coup justement à voir pour Condor comment ça fonctionne. Bref, vous l'aurez compris, pas mal d'enjeux cette semaine avec évidemment Kung Fu Panda 4 qui sera scruté de très près et on va voir eh bien, tout cela arriver dans les salles. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à tous d'avoir été là aussi autour de cette table et puis on vous souhaite de bons films, à bientôt.